Et béni, bonjour à tous. Et en échange, Hachim, je voudrais aussi te bénir, parce que j'ai lu votre lettre de nouvelles ce matin. Je l'ai reçue par mail, j'ai lu le mail. Et dans ce mail, vous disiez aussi que vous aviez besoin de prière par rapport à votre appel en France, par rapport à votre mission en France. Et je voudrais qu'on prenne une minute pour qu'on puisse les bénir, tous les deux. On peut étendre nos mains en leur direction. Et Seigneur, nous prononçons des paroles de bénédiction sur Hachim et Sabine ce matin, Seigneur. Seigneur, tu les as appelés en France, Seigneur, c'est pour une raison bien spéciale, bien spécifique, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, alors qu'ils sont peut-être en proie au doute parfois ou qu'ils ont des décisions importantes à prendre, Seigneur, nous te prions par ton Saint-Esprit, Père, de les visiter puissamment, Seigneur, ce matin. Seigneur, de ôter tout doute de leur cœur, Seigneur, tout doute de leur chemin, Seigneur. Tu éclaires leur sentier, Père éternel, et tu fais entendre ta voix puissamment, Seigneur, dans leur cœur, Père, que tout à nouveau il y ait une flamme qui les embrasse, Seigneur, pour ce pays, si telle est ta volonté dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais dans leur vie, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous bénissons le ministère qu'ils ont reçu, Seigneur, car c'est une grâce pour nous, Seigneur, qu'ils aient posé leurs pieds sur cette terre de France. C'est une grâce pour nous les Français, Père. Nous les bénissons en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, les amis. Bien-aimés, si tu es là ce matin, c'est parce que tu aimes Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Amen! Pardon, moi j'ai le micro, ça fait fort. Pourquoi tu aimes Jésus? Pour quelle raison as-tu dit oui? Pourquoi l'aimes-tu tant, ce Jésus? Qu'a-t-il donc fait pour toi que tu l'aimes tant? Là, tout de suite, c'est quoi la première réponse qui te viendrait à l'esprit? J'aime Jésus parce qu'il m'a sauvé. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus parce qu'il t'a sauvé? Est-ce que c'est pour ça que tu as répondu oui à son appel? Est-ce que c'est parce qu'un jour il t'a tendu la main de là où tu étais et tu as saisi cette main? Tu as fait de Jésus ton sauveur ce jour-là. C'est vrai. Nous avons fait de Jésus notre sauveur ce jour-là. Et mon frère Philippe, merci, a dit ceci ce matin. Il dit, mais pourquoi y a-t-il un manque si cruel de joie au milieu de nous? Qu'est-ce que Jésus est venu annoncer ici-bas? Qu'est-ce qu'il a dit? Luc 20, verset 1, c'est un exemple parmi d'autres. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait quoi? Le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si je te dis ce matin, mon frère, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est la même que lorsque tu t'es converti. C'est exactement la même bonne nouvelle. Aujourd'hui, hier et demain. Et quand on reçoit une bonne nouvelle, quel est le fruit immédiat de la bonne nouvelle? La joie. Mais alors pourquoi manque-t-on si cruellement de joie dans nos vies de tous les jours? Mais que s'est-il passé? Quelqu'un serait-il venu nous voler notre héritage? Quelqu'un serait-il venu s'initier entre nous dans notre relation avec notre Père? Nous avons aimé Jésus parce qu'il nous a sauvés. Et où je voudrais en venir ce matin, je ne sais pas encore.
Nous verrons bien l'issue du message.
Mais je crois que j'ai été interpellé, je suis constamment interpellé par le fait de savoir pourquoi dans ma vie, les épreuves sont si difficiles à supporter. Et pourquoi les conséquences sont si compliquées à accepter. Pourquoi est-ce que j'ai reçu la bonne nouvelle ? J'ai fait de mon Seigneur, j'ai fait de mon Jésus mon Sauveur. Et cette bonne nouvelle, pourquoi ai-je tant de mal à l'accepter tous les jours de ma vie ? Et nous allons parler de ça ce matin. C'est quoi la bonne nouvelle ? C'est quoi la bonne nouvelle que Jésus est venu nous donner ? Je vais vous dire un truc. Des fois, moi, quand je me la suis reposée, cette question, j'ai dû chercher à nouveau. Je me fais, mais au fait, mais c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus pour moi aujourd'hui ? C'était une bonne nouvelle quand je me suis converti, c'était une bonne nouvelle quand je l'ai connu, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que quand je me repose la question, c'est si difficile de trouver la réponse immédiatement ? Mais vous savez pourquoi c'est si difficile de trouver la réponse immédiatement ? C'est parce que nous pensons à tous les problèmes que nous avons et que nous nous disons dans tous ces problèmes, mais où est Jésus ? Vrai ou pas ? En partie. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Cette bonne nouvelle, malheureusement, ne nous donne plus autant de satisfaction qu'elle nous a donné, que nous en avons eu lorsque nous avons connu Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes éloignés de notre premier amour. Et si aujourd'hui nous sommes si tristes dans nos vies, c'est parce que nous nous sommes éloignés de lui, tout simplement. Nous nous éloignons progressivement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les problèmes s'entassent. Petit homme est tombé. Mais petit homme va se relever. Voilà. François a dit parce qu'il a trouvé la consolation auprès de son père. Je dois le dire tout haut parce que c'était beau quand même. Voilà. Mon frère Philippe t'a dit ce matin, Jésus, il s'est abaissé. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Et j'ai relevé ce passage dans, je ne sais plus où. Vous dites maître et seigneur, et vous faites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Là, je fais un petit pont. Pourquoi ? Parce que nous avons fait de Jésus notre Sauveur. Mais a-t-on fait de Jésus notre Seigneur ? Et la distinction, mes amis, la différence entre ces deux mots est énorme. Nous allons parler de ça. En acceptant Jésus ce jour-là, on l'a fait de lui notre Sauveur. Mais est-ce qu'on s'attendait à ce que, à ce moment-là, nous entrions dans un royaume qui est un royaume inversé par rapport à celui dans lequel nous avons grandi jusqu'à présent ? Les valeurs du royaume de Dieu sont inversées par rapport à celles du monde. Et quand on était la semaine dernière, on était à la marche pour Jésus, il y avait un homme que je ne sais plus, de l'église de Villeurbanne peut-être, tu sais, il était sur le char derrière, il évangélisait beaucoup, peut-être. Il disait, la conversion, c'est se détourner, c'est faire demi-tour. Michel Rivier. Il a dit ça plusieurs fois, c'est faire demi-tour. Et là où je veux en venir, c'est que lorsque nous avons fait de Jésus notre Sauveur, en même temps, L'avons-nous accepté comme notre Seigneur? Avons-nous fait demi-tour par rapport à ce que nous étions? Avons-nous fait demi-tour par rapport à ce que nous vivions? Puisque si aujourd'hui nous avons tant de tristesse dans nos vies, est-ce que Jésus est Seigneur de ta vie? Il est ton Sauveur, d'accord. Je ne te retire pas ton salut ce matin, ne t'en fais pas. Mais moi, je t'invite à aller plus loin. Je t'invite à la transformation. Ce n'est pas moi qui t'invite. Jésus t'invite à être transformé à son image, à sa stature qui est parfaite. Mais pour cela, il faut qu'il soit ton Seigneur ce matin. Pour cela, il faut qu'il soit notre Seigneur. Pourquoi on a aimé Jésus ? Parce que Jésus, c'est le roi des rois. Et qu'en tant que roi des rois, il s'est abaissé si bas qu'on a jugé qu'il était un bon roi. Je juge un bon leader à la faculté qu'il a de pouvoir s'abaisser. Pourquoi on a aimé Jésus ? C'est parce qu'il s'est abaissé si bas qu'il est venu, à ce point nous laver les pieds. Et il dit, je vous dis ça, je fais ça pour vous, pour que vous fassiez la même chose. Il est notre Seigneur. Il est un exemple. Et notre joie réside dans le fait et dans nos facultés à pouvoir nous abaisser face aux circonstances que nous ne comprenons pas, nous nous abaissons. Et vous savez ce qui se passe ? Le vent passe au-dessus de nos têtes. Lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous avons décidé de travailler avec et pour lui. Pourquoi ? Pour son royaume. Où est son royaume ? Est-ce que c'est un royaume seulement à venir ? Ou est-ce que c'est un royaume qui est déjà ? Il est à venir ? Il est déjà. Jésus dira, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, si le royaume de Dieu est au milieu de nous, alors que nous sommes des ouvriers dans le champ de Dieu, nous sommes des ouvriers, des travailleurs, nous sommes des travailleurs sociaux. Nous avons accepté l'outil de travail. Nous avons pris la charrue et nous avons commencé à labourer le champ. Oui ou non ? As-tu commencé à labourer le champ ? Jésus est-il ton Seigneur et ton Sauveur au point que tu aies pris la charrue et que tu aies commencé à labourer ton champ, le champ qui t'a été confié ? Tu laboures le champ qui t'a été confié avec le don qui t'a été donné. Où est ta charrue, mon ami ? Où sont les fruits de ton travail ? Car si moi, aujourd'hui, je t'en parle, c'est une chose. En revanche, si Dieu te le demande, c'en est une autre. Oui ? Amen ? Où est ta charrue, mon ami ? Où est le don que tu as reçu ? Où sont tes fruits ? Car si moi je te parle de tes fruits, il vaut mieux que ce soit moi qui t'en parle. Et nous allons savoir pourquoi. Jésus dit ceci dans Luc 9. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quand on fait de Jésus notre Seigneur, on prend la charrue avec le don que nous avons et nous travaillons le don que nous avons. On passe la charrue et si toutefois tu regardes derrière toi, bah tu vois pas ce qui se passe devant toi du coup. Et la charrue, qu'est-ce qu'elle fait progressivement? Demi-tour. Comment voulez-vous que nous tracions des sillons droits si on ne cesse de regarder qui nous étions avant? Comment voulez-vous qu'on travaille si on passe notre temps à se plaindre de ce que nous étions et de ce qui semble être toujours le cas? Moi, je me pose la question pour moi-même, les amis. Évidemment, je ne balance pas des anathèmes ou des jugements comme ça. Moi, je regarde mes sillons et je fais l'erreur de regarder si mes sillons sont droits en me retournant, vous voyez. Deuxième erreur. Oubliez ce qui est derrière vous et tentez d'atteindre ce qui est devant nous. Bien, quand nous prenons des décisions, nous avons deux possibilités qui s'offrent à nous dans la façon dont nous allons prendre ces décisions. Soit elles seront charnelles, soit elles seront établies sur des promesses que Dieu a faites sur nos vies. Le problème des décisions charnelles, c'est qu'elles vont être motivées par un certain nombre de choses. Elles vont être motivées par la peur, par le manque, le « je n'ai pas assez », le « je ne suis pas assez bien », le « qui suis-je pour ?» Et du coup, nous prendrons des décisions qui sont charnelles et nous abaisserons Dieu à notre niveau. Et nous dirons à Dieu, une fois que nous aurons pris nos décisions charnelles, « Dieu, peux-tu venir dans ma condition maintenant ?» et me dire que ce que je fais est bien, s'il te plaît? Est-ce une bonne chose? Je vous pose la question. Moi, je vous pose la question, je nous pose la question. Pensez-vous qu'il soit avantageux pour nous, lorsque nos décisions sont prises, de demander tranquillement à Dieu de venir donner son approbation sur des décisions charnelles que nous aurons prises? Oui, mais Jésus, j'avais faim. Oui, mais Jésus, j'étais trop jeune, j'étais trop vieux, j'étais trop pas assez. Combien de fois j'ai fait ça dans ma vie? Dans mon péché, j'ai dit à Dieu, viens, non pas viens me sauver, c'est pas ça, bien sûr, Jésus vient et te tend la main. Seulement si tu t'engages dans un chemin de repentance, que tu te détournes, que tu fais demi-tour. Je n'ai jamais demandé à Dieu de venir acquiescer mon péché. Si, ça se fait? Est-ce que les choses sont comme ça? Bon, alors j'ai pas les mêmes évangiles. Ce n'est pas la même bonne nouvelle. Non, on se base sur les promesses de Dieu sur nos vies. Et nous lui faisons confiance. Ésaïe 41, n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de justice. Jérémie, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'établis mes décisions, non pas selon les circonstances charnelles, selon mes difficultés, j'établis mes décisions sur les promesses de Dieu parce que j'ai fait de Jésus mon Sauveur et mon Seigneur.
et que je ne demande pas à mon Seigneur de venir me rejoindre dans la décision que j'ai prise pour lui demander d'acquiescer ma décision. Dans ce cas, Jésus n'est pas mon Seigneur, il est mon vassal. Il se met à ma disposition, à la disposition de mon péché. Or, nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons notre charrue à la main et nous traçons des sillons droits parce que nous travaillons pour un royaume d'excellence. Amen. En tout cas, c'est notre but. C'est notre but. Ce royaume d'excellence est notre but. Soyez parfaits comme votre Père est parfait, nous dit la parole. Le royaume de Dieu est en nous. 2 Corinthiens 13, verset 5. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Mais le royaume de Dieu, il est également au milieu de nous. Et ce royaume au milieu de nous, comment se manifeste-t-il? Comment se manifeste-t-il ce royaume qui est au milieu de nous? 1 Pierre 2, verset 4 à 5. Approchez-vous du Seigneur. J'ai choisi volontairement une traduction français moderne, on va dire. Approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée. Ce n'est pas notre cas. Il est la pierre vivante que nous avons acceptée. Et il me semble que personne ne nous y a forcés. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie. Vous aussi, comme des pierres vivantes, laissez-vous intégrer dans la construction du temple spirituel. Je sais, c'est une traduction qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, mais j'aime bien. Laissez-vous intégrer dans la construction du temple spirituel et vous deviendrez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, afin d'offrir des sacrifices spirituels qui lui sont agréables par Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, as-tu été mis à part, oui ou non? Je pose la question ouvertement. Es-tu mis à part pour Dieu? Si oui, tu es un travailleur de son champ, un ouvrier de sa plantation. Et ta vie, nos vies ne nous appartiennent plus. C'est l'évangile de la bonne nouvelle. Autrement dit, la dernière fois, ce qui dit « afin d'offrir des sacrifices spirituels qui lui sont agréables par Jésus-Christ », autrement dit, ça donne ainsi. Vous pourrez offrir à Dieu, grâce à Jésus-Christ, tout ce que vous faites de bien et qui lui plaît. C'est une traduction de français courant. Aussi ardemment que nous cherchons la volonté de Dieu pour notre vie, aussi ardemment nous devons la rechercher pour son Église. Et donc son Église, elle est au milieu de nous. Je vous le redis parce que je crois qu'on ne me l'a pas assez dit à moi. Le potentiel en chacun de vous est immense. Le don qui a été placé sur chacun de nous est immense. Et je veux, pour vous, pour chacun de nous, que nous en ayons tellement conscience qu'il y ait tout à nouveau une flamme ce matin qui s'allume dans vos cœurs. Nous avons chacun reçu, selon la grâce de Dieu qui nous a été accordée, chacun individuellement, un don, une grâce nous a été faite. Un Corinthiens 3, 9, comme je disais tout à l'heure, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » J'aimerais vous donner un témoignage. Quand j'étais, quand je travaillais là-bas chez DAV Equipments pendant 10 ans, je suis rentré, j'étais magasinier là-bas. Donc il n'y avait pas de chef technique. Il y avait une équipe technique, mais pas de chef technique. Il n'y avait pas à ce moment-là de gestionnaire d'agence. Il y avait un commercial qui était donc David Assil, que vous connaissez probablement, qui était commercial et qui a été fait chef d'agence. Mais ce commercial, malheureusement, à cause de son travail de commercial, n'était jamais à l'agence. Comment voulez-vous gérer une agence si vous n'y êtes jamais? Ce n'est pas de sa faute, mais ça a été mal fait. C'est comme ça. Donc, moi j'arrive, je suis magasinier. Je suis tout seul, tout le temps. Je dois gérer tous les problèmes de cette agence à distance avec le chef d'agence. Je suis seul. Je suis magasinier, je vous le rappelle. Mais je dois prendre des décisions. Parce qu'il y a une équipe technique qui attend des directives. Parce que je reçois sans arrêt des appels pour des dépannages ici et là. Mais je suis magasinier. Je suis censé emballer des colis et faire des palettes. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu les manquements. J'ai vu combien les techniciens avaient besoin de quelqu'un. J'ai dit, Jésus, tu m'as donné les capacités. Je vais travailler pour eux. J'ai commencé à faire ce pour quoi je n'étais pas payé. Mais souvenez-vous, nous ne travaillons pas pour un salaire. Nous travaillons pour un royaume dont l'excellence est bien supérieure à ça, on est d'accord? Alors j'ai commencé à mettre mon énergie dans des choses qu'on ne m'avait jamais demandé. Et progressivement, tiens, on remarque que ça va de mieux en mieux. Et j'étais confronté à une absence spectaculaire. Les gens se mettaient en arrêt pour un rien. Ils se mettaient en arrêt pour souvent. Jérémy, je ne viendrai pas ce matin, j'ai mal à la tête. Très bien, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas la question. Sauf que, comment je vais faire le travail si je n'ai pas de technicien pour faire le travail? Quel service vais-je rendre au client si personne ne va le faire, ce service? Et moi, je suis là, je prends le téléphone constamment et j'essaye d'expliquer au client, excusez-moi, j'ai personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je commence à parfaire mes compétences techniques, voyez-vous. Je commence à pallier au manquement. À tort ou à raison? J'en sais rien. Il y avait des manquements. Il y avait des gens qui devaient être à leur place, mais qui n'étaient pas à leur place. Et le poids retombait sur les autres. Mais nous travaillons pour un patron au service de ses clients. Alors nous devons, nous, moi j'ai conscience de la puissance du service et de l'excellence dans le service que je donne. Alors c'est pas grave, je parfais mes compétences techniques. Et comme ça, je peux, au téléphone, par téléphone, je peux conduire les clients à faire les manipulations techniques qu'il faut pour les dépanner. Et ils sont contents. Et vous savez quoi? Ils reviennent. Qu'est-ce que j'ai fait? Progressivement, j'ai commencé à faire prendre conscience aux techniciens que j'avais besoin d'eux. Et que seul, je n'y arrivais pas. C'était loin d'être un chemin facile pour moi, parce que croyez-moi que plus souvent je me suis retrouvé par terre, en pleurs dans cette agence, à crier à Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je m'épuise. Mais le Seigneur me rappelle, il me dit, pour qui tu fais ça? Pour qui tu travailles vraiment là? J'ai commencé à faire prendre conscience à mes amis, à mes collègues de travail que j'avais besoin d'eux. Qu'à chaque fois qu'il en manquait un, c'est sur moi que ça retombait. Le sens des responsabilités. J'encourageais la responsabilité chez l'autre. Et les conséquences que son manque de prise de responsabilité avait sur moi, sur son environnement. Résultat, gloire au Seigneur. Le taux d'absentéisme est tombé à zéro. À zéro. Merci Seigneur. Parce que oui, un temps j'ai fait les efforts qu'il fallait pour montrer l'exemple. Un temps j'ai dit maintenant, ça suffit. J'ai besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, comment je vais faire ? J'aimerais que quand je dis ces mots, vous fassiez le parallèle entre ce que nous vivons ici, on est d'accord, hein ? Sinon ça ne sert à rien. Je bénis tous ceux qui sont en vacances, hein. J'adore partir en vacances, il n'y a pas de problème, hein. D'accord ? J'aime bien les week-ends pascal, les week-ends de 4 jours, il faut éviter que ça se transforme en week-end de 3 mois. Bon. Non. Je n'émets aucun jugement, je vous bénis, mais j'essaie d'expliquer. Non, parce que ça, c'est un truc qui peut me revenir dans la tronche, hein, j'oublie. Comment peut-on construire un édifice si les pierres vivantes que nous sommes ne sont pas à leur place ? Qu'est-ce qui va se passer ? Juste terminer mon témoignage, vous savez ce qui s'est passé quand j'ai quitté l'entreprise au bout de 10 ans de bons et loyaux services ? J'ai envoyé une lettre, j'ai dit à mon boss, ex-PDG, j'ai servi votre agence de Lyon comme si c'était ma propre maison. J'ai eu un coup de fil de sa part, et c'est pas pour me vanter, mais il m'a dit comme ça, Jérémy, comment on va faire sans vous ? Vous avez placé la barre tellement haute, ce sont ces mots de mon PDG, vous avez placé la barre tellement haute que je ne sais pas comment on va vous remplacer. Merci, il fallait le dire avant. La responsable des opérations RH m'appelle en personne également. Elle me dit, Jérémy, comment vous faites à l'agence de Lyon pour qu'il n'y ait pas d'absentéisme ? Chose qui, au niveau national, était tout à fait normale. Ben, je ne savais pas quoi répondre. Et je lui ai dit bêtement, je lui ai dit, ben, moi, mes collègues de travail, je les aime. je lui ai dit, voilà, là, tout de suite, c'est la seule réponse que je peux donner. Mais j'ai trouvé ma réponse un peu limitée, alors je lui ai fait un message il y a un mois de ça. Un pavé comme ça pour lui expliquer pourquoi. Parce que Jésus, voilà ce que je lui ai dit. Bien, le parallèle que je nous encourage à faire, c'est que nous sommes ces pierres vivantes, que nous construisons un édifice ensemble, qui repose sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ, et que je nous rappelle à chacun ce matin que nous avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, cela fait de nous des co-ouvriers, co-héritiers avec le Christ. Amen. Bien, si nous disons amen à ça, qu'est-ce qui va se passer ? Si moi, je vais vers Jésus et que je me plains auprès de Jésus du fait que mon frère ou ma sœur fait retomber sur moi le poids de ses propres responsabilités. Je vais voir Jésus, je lui dis, Seigneur, c'est lourd quand même, parce que du coup, on est obligé de tout porter ici. Je dis pas que c'est mon cas. Hein. D'accord ? Mais ce que je dis, c'est pour nous inviter à nous poser des questions. Si je vais voir Jésus et que je me plains de vous, c'est peut-être une erreur, à tort ou à raison. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ai-je tort de me plaindre de vous ? Je vous redis, ce n'est pas moi. Hein. Moi, je ne veux pas de problème avec vous. Qu'est-ce que va faire Jésus, à votre avis ? Est-ce que Jésus va répondre ? Oui, mais le pauvre, t'as vu ? Il est ci, il n'est pas assez ça, il est peut-être là-bas, moi je ne sais pas. Croyez-vous que Jésus va répondre ça ? Peut-être, en partie. Jésus va répondre, sinon, quoi ? Encore ? Vous souvenez-vous de la parabole des talents ? Si Jésus note que celui à qui il a été donné un talent ne fait pas son travail, qu'est-ce qui va se passer ? Il va le lui retirer. Et qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va le donner à celui qui en a beaucoup. Philippe, tu as bien travaillé. Non seulement tu avais 3 talents, en voilà un 4e. Ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Parce que je ne veux pas qu'à moi, il me soit venu être reproché de ne pas vous en avoir parlé. Puisque nous aurons tous des comptes à rendre quand nous serons devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et il nous posera cette question. Mon fils, ma fille, je t'avais confié un trésor, où est-il ? Qu'en as-tu fait ? Nous sommes dans un temps de grâce où il nous est encore possible de poser ce genre de questions. Il nous est encore possible de se poser ce genre de questions. Nous sommes dans l'an de grâce 2025 où on peut encore se dire « Oui, mais Seigneur, qu'as-tu fait de ton trésor, mon frère, ma sœur ?» C'est ainsi qu'il sera dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ici, c'est la maison que le Seigneur bâtit, et c'est la maison de l'excellence. Si vous vous dites maintenant, là, Seigneur, c'est trop dur cette maison de l'excellence. Moi, je n'arrive pas. C'est trop compliqué. C'est trop haut pour moi. Tu es trop saint pour moi. Alors pose-toi la question de savoir si tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur. Et si tu vis selon ses promesses à lui, ou si nous vivons charnellement, en fonction donc des circonstances, et que ces circonstances-là ne portent que le fruit de la tristesse et du manque de joie. Nous avons la grâce ici, au milieu de nous, d'être comme dans un camp d'entraînement. Nous avons la grâce de pouvoir faire circuler ici et de mettre en test les dons que nous avons. C'est à ça que ça sert, là, ça, ce que nous faisons ce matin. Et c'est pour ça aussi que nous dirons souvent « J'ai été blessé par quelqu'un à l'église, tel ou tel m'a blessé. » Parce qu'ici, c'est aussi le lieu de la vulnérabilité. C'est ici le lieu où on accepte d'être frère et sœur avec une personne que nous ne connaissons pas ou peu. C'est ici que l'on accepte de se mettre à découvert. C'est ici qu'on accepte de raconter nos secrets, nos péchés. Mais cette maison, elle sert à ça. Elle sert à ça aussi. Elle doit servir à ça. Confessez vos péchés. Confessons nos péchés. Exercez-vous aux dons les meilleurs. Exercez-vous. Ici, c'est aussi le lieu où vous pensez que vous avez reçu une blessure. C'est pas ça, c'est que vous vous êtes mis à découvert ici. Alors, une parole mal dite, mal prononcée, ou mal interprétée, c'est possible, elle peut être mal dite, mais elle peut être aussi mal interprétée. Alors que vous êtes dans un état de vulnérabilité, vous blessera. C'est pour ça que dans nos églises, on doit encore faire des efforts, chacun. Mais je vais vous dire aussi que si vous êtes constamment blessé, le problème est ailleurs. Il faut cesser de regarder chez l'autre. Si vous êtes constamment en état de blessure ouverte, c'est que vous n'avez pas travaillé votre armure. Votre armure n'est pas assez épaisse. Votre casque n'est pas sur votre tête. L'épée n'est pas à sa place. L'armure n'est pas enfilée, elle est restée dans le placard. Alors nous travaillons ensemble à construire cet édifice spirituel. Nous nous soumettons les uns aux autres. Nous nous aimons les uns les autres. Nous travaillons le don que nous avons reçu, frères et sœurs. Et ce matin, c'est notre message. Où est ta charrue ? Quand nous venons ici, nous disons, quel message va-t-on recevoir ? Changeons notre mentalité. Venons ici en disant, qu'est-ce que je vais faire ce matin pour rendre gloire à Dieu ? C'est un royaume inversé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que nous allons faire ? Ça tombe bien, il est 11h40. Il nous reste 20 minutes avant le dong de midi. Tiens, mon frère, ma sœur, 20 minutes, pendant ces 20 minutes, qu'est-ce que tu vas faire ? Et ça, tout le monde se met à se lever. Oui, je vais exercer mon don, elle est où ma charrue ? Ben, t'as raison. C'est comme ça qu'il faut. Où est ta charrue ? Et moi, je vais vous dire combien j'aime votre charrue. Combien j'aime nous voir travailler à la construction de ce temple saint. Combien j'aime voir mon frère et ma sœur à sa place parce que je suis béni, parce que je mange de son fruit. Vas-tu me priver de ton fruit ? Veux-tu vraiment me faire mourir de faim ? Veux-tu vraiment me voir faire les choses à ta place ? Moi, je te pose la question, mais vraiment, sincèrement. Est-ce que c'est comme ça au milieu de nous ? Est-ce que, comme dans le monde, on doit faire les choses à la place des gens parce qu'eux, ils ont la flemme de les faire ? Vraiment, je nous interpelle. Peut-être je me trompe, j'en sais rien, mais l'édifice que nous construisons, c'est un royaume d'excellence. Nous travaillons pour le royaume de maintenant, le royaume à venir. Et oui, effectivement, nous aspirons à ça, parce que c'est un royaume qui sera, lui, parfait. Il n'y aura plus toutes ces questions qu'on se pose. Il sera établi pour l'éternité. Alors on peut tout simplement, si vous le souhaitez, baisser la tête. Je ne souhaite pas que nous repartions ce matin sans avoir pris un nouvel engagement. Est-ce que votre cœur, est-ce que votre esprit est disposé ce matin ? Et là, je vous pose une question. Es-tu disposé, mon frère, ma sœur, ou ne l'es-tu pas ? Si tu n'es pas disposé, alors Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous nous plaçons, Seigneur, devant toi ce matin. Pour faire de toi tout à nouveau notre Seigneur, et j'énumère devant toi, mon Père, les dons que tu m'as confiés. Et je fais l'exercice devant toi, Papa, de compter les dons que tu m'as donnés. Et je fais l'exercice devant toi, Papa, après avoir compté ces dons, de te demander comment tu m'appelles à les mettre au service de mon frère, de ma sœur. Parce que si toi, Jésus, qui es mon sauveur, tu t'es abaissé si bas et que tu m'as donné cet exemple, je veux en faire de même. Alors le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. Le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. Il t'interpelle personnellement, mon frère, ma sœur. Et à tout à nouveau, il t'incite à prendre la charrue dans tes deux mains. Tout à nouveau, il t'invite à prendre la charrue dans tes mains, à la poser dans ce champ et à commencer à labourer et à prononcer les promesses qui sont sur nos vies. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. J'avance à ta suite. Je me détourne de mes mauvaises voies. Je me détourne de mes mauvaises décisions. Parce que tu es mon Seigneur. Parce que je travaille à la gloire de ton nom pour ce royaume éternel. Alors mon frère, ma sœur, nous sommes ensemble. Nous bâtissons ensemble. Nous bâtissons ensemble cette maison glorieuse. Seigneur, nous voulons te bénir et honorer ce nom au-dessus de tout nom. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as mis dans nos mains, parce que tu as fait de moi un ouvrier pour ton royaume. Et ce don si précieux que tu m'as donné, Seigneur, je veux m'engager tout à nouveau ce matin à le faire fructifier. Souvenez-vous de cette petite graine que nous étions, qui a été jetée en terre. Elle a fait du travail. Cette petite graine est devenue une plante. Cette petite plante commence à pousser. Il y a des feuilles qui sortent. Vous êtes cette plante. Elle est arrosée par le Saint-Esprit, la pluie du Saint-Esprit. Cette plante, elle pousse. Et de son tronc, de sa tige principale, il y a des feuilles qui sortent. Et ces feuilles, elles se transforment en branches plus tard. Et de ces branches, à nouveau, il y a des feuilles. Et de ces feuilles, il y a des fruits. De la petite graine que nous étions, nous devenons des arbres. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. Et nous portons du fruit. Du bon fruit. Est-ce que vous voulez porter du fruit, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu veux porter du fruit ? Amen. Alors je vous bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Et si pour une raison ou pour une autre, il y a un poids sur ton cœur, alors ne repars pas dans cet état, s'il te plaît. Vous savez, ça a été dit déjà ce matin. Des fois, on peut dire des choses dans le micro et ça peut paraître à la personne inapproprié ou déplacé. Mais on ne veut pas ça au milieu de nous. Et moi-même, je vous demande pardon si j'ai mal fait. Pardonnez-moi. Et je voudrais que nous nous exercions à cela, que nous cultivions cela au milieu de nous. Je crois que cette Église, elle mérite d'être bâtie, parce que Jésus en est digne. Amen. Est-ce que Jésus est digne que nous nous donnions la peine de travailler dans ce champ? Amen. Si tu es fatigué et chargé, tu peux t'avancer. Si tout à nouveau tu as besoin de te confesser, tu peux t'avancer. Si tu as besoin de t'engager tout à nouveau dans une voie pour ton Seigneur, avance-toi, on va prier pour toi. S'il y a un poids sur ta vie, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, de se sortir, tu peux t'avancer tout à nouveau. On va prier pour toi, on va prier avec toi et implorer la grâce du Seigneur sur ta vie. On prend 3 minutes devant nous, on se laisse ce temps et avancez-vous s'il y a besoin.